Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Bonjour, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette. Bien heureuse d'être avec vous derrière ce micro pour les 60 prochaines minutes sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui à l'émission, eh bien, à quelques jours de la journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, en fait, qui se trouve à être le 15 octobre prochain, Alexandrine Chappet, elle gestionnaire de communauté chez l'association Parents Orphelins, nous parle de cette réalité, des besoins aussi des parents qui vivent ce douloureux passage. Elle sera là en deuxième partie d'émission, Alexandrine. Aussi, comment se préparer à un rendez-vous médical avec notre chroniqueuse et surtout infirmière, France Cardinal-Remette. Aussi, avec la biochimiste et journaliste scientifique Marianne Desautels-Marissal, on discute de ces mystérieuses bactéries qui font beaucoup jaser ces dernières années et qui parsèment notre intestin. Donc, elles nous habitent, ces bactéries. Elles sont assez serviables aussi, mais pourtant encore plutôt méconnues. Marianne Marissal Desautels a signé ce nouveau livre, 1000 milliards d'amis, comprendre et nourrir son microbiome. Et puis, dans quelques instants, le bilinguisme chez l'enfant. Quels sont les bienfaits avec Agathe Tupula? Elle est orthophoniste et directrice générale de la clinique Multithérapie Proaction. Mais tout juste avant, on débute cette émission avec la revue de presse d'Anne-Laure Janson. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marianne.
Qu'est-ce qui retient votre attention cette semaine côté actualité santé?
Un article publié Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, qui indique que la durée de la vie humaine aurait atteint ses limites.
Mm-hmm.
La durée de la vie humaine est fixe et soumise à des contraintes naturelles, tendent à démontrer les travaux de chercheurs américains récemment publiés dans la revue Nature. Le généticien Jan Wig et ses collègues du Albert Einstein College of Medicine de New York pensent que notre coquille biologique n'est pas destinée à survivre au-delà de 115 ans.
Mm.
Ils sont venus à cette conclusion après avoir analysé les données de la Human Mortality Database recueillies dans 38 pays par des démographes américains et allemands depuis les années 20. Donc on sait bien que l'espérance de vie a fortement augmenté au cours du 20e siècle en raison de la diminution de la mortalité infantile et de l'amélioration des conditions sanitaires. Les chercheurs ont constaté que de plus en plus d'individus vivent au-delà de 70 ans. Dans la quarantaine de pays pour lesquels les données existent, cependant, l'augmentation de la survie chez les personnes âgées de plus de 100 ans a commencé à plafonner, puis à baisser à partir de 1980. Et le saviez-vous ? Aucun centenaire n'a jusqu'à présent réussi à égaler ou à dépasser le record de longévité de la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Donc, de nouveaux progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques pourraient encore augmenter l'espérance de vie moyenne de la population, mais pas la durée maximale de la vie, selon cette étude.
Mais mettons, si on vivait jusqu'à 115 ans, ça serait pas mal, déjà. On
Tout
se le souhaite.
Fait. Il y a encore de la marge.
Maintenant, l'anxiété, ce n'est pas juste une histoire qui concerne les adultes. Ça peut toucher les enfants aussi.
Ça peut toucher les enfants, effectivement. Et là, c'est de savoir détecter quand il y a un problème. Parce que difficile de mettre le doigt sur ses appréhensions. Les appréhensions d'un enfant sont-elles le fruit d'une crainte passagère ou d'un véritable trouble anxieux? La presse nous raconte l'histoire de Gabriel, qui n'a jamais attrapé un seul poux et qui pourtant a miné son enfance à cause de ses bestioles. Plusieurs proches de Gabriel souffrent de troubles anxieux. Le terreau était donc fertile chez l'enfant.
Mm-hmm.
La peur a grandi et tous les soirs après l'école, dans son jeune âge, Gabriel s'arrête chez sa grand-mère et lui demande de fouiller sa tête. Arrivée au secondaire, elle regardait partout dans ses cheveux 3 fois par jour. Elle se chicanait avec tout le monde. Elle voyait des amis, mais voulait juste qu'ils partent. En guerre ouverte avec sa mère, un peu plus tard, toujours avec les poux en trame de fond, Gabrielle s'enfonce, elle tente de se suicider à 15 ans, et elle déclare que c'était vraiment à cause des poux. Alors, sa mère n'en peut plus. Karina, la tante de Gabriel, propose à sa sœur d'échanger les rôles un instant. Elle déménage chez l'adolescente et laisse son appartement à sa sœur. Immédiatement, Karina entreprend de donner un défi par jour à sa nièce, de s'asseoir sur le sofa 2 minutes, puis 5. Au bout d'un long processus, elle arrive à s'y coucher, à y mettre un jeté sur sa tête, mais ça a été très difficile. Elle a reçu aussi, cette jeune femme, l'aide d'une travailleuse sociale et participé à un groupe de soutien pour adolescents anxieux. Alors, l'anxiété, c'est souvent normal, il ne faut pas s'en inquiéter dans la mesure où ça ne devient pas envahissant. Mm-hmm. Mais que faire si ça le devient ? Rassurer l'enfant, bien sûr, valider son émotion. Et ensuite, selon la psychologue Anne Hébert, auteure de « Anxiété, la boîte à outils », c'est de lui remettre ce problème sur les épaules et lui demander « qu'est-ce que tu pourrais faire ?». Il est important, selon elle, que l'enfant comprenne que l'anxiété vient de l'intérieur. Une autre psychologue, Nathalie Couture, qui a publié « Incroyable, moi, maîtrise son anxiété », explique aux petits qu'ils ont en eux un petit plus et un petit minus et que, en gros, quand ils sont anxieux, c'est qu'ils écoutent plus, petit plus. Ariane Hébert suggère aussi de créer un réflexe d'optimisme chez l'enfant en l'incitant notamment à voir le positif dans toute situation.
Oui, mais on comprend par cet article paru dans la presse que ces troubles anxieux doivent être pris au sérieux à un moment donné parce qu'ils auront des impacts et à l'adolescence et à l'âge adulte de l'enfant.
Aller chercher du soutien, effectivement, oui. Extérieur.
Maintenant, deuxième édition du Salon des aidants et des aînés du côté de la Mauricie.
Oui, l'Appui Mauricie a dévoilé le lancement de la deuxième édition qui aura lieu le 13 novembre à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Donc un salon des aidants et des aînés, le plus grand salon dédié d'ailleurs à cette population. Une 60aine de kiosques tenus par des entreprises et des organismes locaux couvrant une panoplie de services diversifiés, des ateliers dédiés aux visiteurs pour s'informer, s'outiller sur certaines thématiques, notamment le soutien à domicile. Deux conférences, dont une livrant le témoignage d'un artiste proche, aidant, très connu au Québec, mais dont on dévoilera l'identité la veille ou lors de la conférence de presse, quelques jours avant l'événement. Alors, en bref, 55% des proches aidants ont entre 45 et 65 ans, 57% travaillent, 61% n'ont pas fait le choix d'assumer la responsabilité d'aidant. Et 99% des proches aidants ont admis qu'être aidant a eu une incidence sur leur santé. Les principaux signes sont l'inquiétude, l'angoisse et la fatigue. Mmh. Alors, il faut les aider.
Et bon, on attend 1000 visiteurs cette année. L'an passé, pour la première édition, 700 visiteurs. Ça a déjà été un franc succès. On voit qu'il y a un besoin de ce côté, et comme un peu partout au Québec. Et en terminant rapidement, les jeux vidéo, c'est pas juste pour les ados, Anne-Laure.
Et non, c'est ça. Il y a un jeu vidéo créé en France pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Personnes atteintes d'un stade léger de la maladie d'Alzheimer auront la possibilité d'améliorer leurs capacités cognitives, motrices et physiques à l'aide d'un jeu vidéo. Ça a été créé par le laboratoire CopTech en lien avec l'Université de Nice Sophia Antipolis. 18 patients ont été testés au CHU de Nice, dont 10 souffraient de la maladie d'Alzheimer. Durant 10 heures d'utilisation, les testeurs ont pu améliorer leurs performances physiques, cognitives et motrices. Et on vous en donnera bientôt des nouvelles parce que ce jeu sera bientôt disponible gratuitement pour tous les professionnels de la santé qui souhaitent leurs patients. Il s'appelle X-Torp et c'est l'histoire d'un sous-marin connecté à une caméra où le joueur se retrouve dans une aventure où il doit assurer sa survie et mener des batailles navales.
Donc, ça pourrait traverser l'océan, ce jeu-là.
Mais oui, je pense que oui.
Pour les gens d'ici.
Je vais vous donner des nouvelles.
On compte sur vous, Anne-Laure Janson, recherchiste à cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
Elle vient tout juste de signer ce livre, Le bilinguisme, un atout dans son jeu, c'est Agathe Pula Kabola, qui est une fière collaboratrice ici à C'est bon pour la santé, directrice générale de la clinique, Agathe, c'est la clinique Multithérapie Pro Action. Vous êtes également
Exactement.
Orthophoniste. Bonjour Agathe, merci d'être là.
Bonjour Marianne.
Le bilinguisme qu'on apprend assez rapidement d'entrée de jeu dans votre livre, c'est que c'est pratiqué par 60%, en fait c'est autant le bilinguisme que de parler plusieurs langues, là, pas seulement deux langues, pratiqué par 60% de la population mondiale, juste ici au Canada, 35% de la population, donc on se rend compte que c'est assez régulier, c'est un processus qui est assez normalisé de parler plusieurs langues au sein d'une famille chez un enfant.
Tout à fait. En fait, on se rend compte maintenant que de parler une seule langue, c'est devenu l'exception dans un contexte où la mondialisation est croissante. Effectivement, de plus en plus d'enfants sont exposés à des contextes multilingues.
Et, bon, il y a des bienfaits du point de vue du développement de l'enfant quand cet enfant parle plusieurs langues.
Oui, les études démontrent que chez les enfants bilingues, on observe qu'en général, ils apprennent plus facilement à lire et à écrire. Ils ont une meilleure capacité d'adaptation, une meilleure attention sélective également. Ils vont avoir tendance à comprendre plus tôt les règles de grammaire, avoir une pensée créative. Donc, il y a différents avantages au niveau cognitif qu'on observe chez les enfants bilingues.
Est-ce qu'un enfant bilingue ou qui parle plusieurs langues a une façon d'utiliser son cerveau différente?
En fait, on sait que parfois les personnes vont avoir tendance à penser que chaque langue occupe un espace bien défini dans le cerveau, de sorte que si on introduit par exemple une deuxième ou une troisième langue, il pourrait y avoir confusion ou moins d'espace disponible, si on veut, dans le cerveau pour chacune des langues, mais ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que les apprentissages qu'on fait dans une langue peuvent très bien être transférés dans l'autre langue. C'est vraiment des espaces qui sont diffus et pas nécessairement limités à des endroits définis dans le cerveau.
Donc, Agathe, c'est un mythe de penser qu'un enfant qui parle plusieurs langues aura moins de vocabulaire.
Exactement. En fait, on observe que c'est même l'inverse. Souvent, on observe que chez les enfants bilingues, quand on inclut le vocabulaire qui est connu dans les deux langues ou dans les trois langues, le vocabulaire va être généralement supérieur à celui d'un enfant unilingue. C'est possible qu'au départ, en bas âge, si on comptabilise seulement les mots connus dans une seule langue, on va arriver à moins de mots qu'un enfant unilingue.
Ouais.
Mais quand on les combine, on a un vocabulaire qui est supérieur.
Lorsqu'un enfant est en apprentissage de ses langues, il n'est pas rare d'entendre des phrases mixtes. Je m'explique, c'est-à-dire d'entendre un enfant dire « I want jus », par exemple. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette construction d'une phrase chez l'enfant qui est en apprentissage?
En fait, le fait d'utiliser deux langues dans un même énoncé, comme dans l'exemple « I want you », c'est un phénomène qui est normal et même très, très commun, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Donc, en fait, pourquoi les personnes ont tendance à utiliser les mots de plusieurs langues dans une même phrase? C'est tout simplement parce qu'on a tendance à utiliser toutes les ressources disponibles. Donc, si un mot en particulier nous vient plus facilement dans une langue, on va l'utiliser spontanément plutôt que de marquer notre discours d'une pause, de chercher le mot. Donc, c'est dans un souci d'efficacité surtout.
Oui, oui. Et c'est très bien illustré dans votre livre, notamment une fille, une petite fille, en fait, qui a un dialogue avec sa mère sur une poupée, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce que vous expliquez, Agathe, c'est que l'enfant va aller avec le mot, peu importe la langue, qui lui vient le plus aisément.
Tout à fait, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle le code switching ou l'alternance des codes linguistiques en français. Donc, c'est le fait de passer d'une langue à l'autre dans un même énoncé.
Est-ce qu'un enfant qui apprend plusieurs langues à la fois pourrait être plus sujet à développer des troubles de langage ou des troubles d'apprentissage?
Non. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui a un trouble de langage dans une langue, bien, c'est sûr que ça va être dans toutes les langues. Toutefois, le fait de parler plusieurs langues ne porte pas l'enfant plus à risque de développer un retard ou un trouble de langage, pas plus que chez les enfants unilingues.
Bien sûr, dans ce livre, vous expliquez, bon, vous donnez des outils aux parents comment dénoter chez son enfant un trouble de langage. Qu'est-ce qui pourrait nous donner des indices?
En fait, il existe des repères développementaux, donc c'est des indices, des caractéristiques à observer chez notre enfant pour différentes tranches d'âge. Pour vous donner un exemple, disons pour un enfant vers l'âge d'un an, on s'attend à ce que déjà il exprime des premiers mots, à ce qu'il y ait déjà un contact visuel aussi avec nous, à ce qu'il réagisse au bruit dans l'environnement, qu'il réponde à notre sourire, qu'il ait tendance à répéter aussi les sons qu'il entend. Donc ça, c'est des indices qui nous donnent, en fait, qui nous montrent que l'enfant a un langage qui se développe bien. Si, par exemple, on a un enfant toujours au même âge, un an, mais qui fait peu de sons, qui imite peu, qui nous regarde peu, qui réagit pas au son de l'environnement, là, on pourrait avoir tendance à s'inquiéter. Et puis, les signes à observer varient vraiment selon les tranches d'âge, mais on peut se référer au site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui fournit sur son site web un document qui s'appelle « Je grandis, je communique ». Et puis, ça explique vraiment bien pour les enfants de 0 à 5 ans qu'est-ce qu'on peut observer au niveau de la compréhension et au niveau de l'expression pour s'assurer que le langage se développe bien.
Agathe, est-ce qu'il est possible d'être parfaitement bilingue dans deux langues ou plusieurs langues?
Non, en fait, c'est un mythe parce que souvent, bon, on a tendance à penser que pour être qualifié de bilingue, il faut maîtriser parfaitement deux langues, mais on ne maîtrise pas parfaitement même qu'une seule langue. Puis souvent, oui, chez les personnes bilingues, on observe qu'il y a des domaines qui sont plus avancés ou plus faciles où la personne a plus de vocabulaire que dans d'autres domaines. Par exemple, un jeune enfant pourrait avoir plus de vocabulaire au sujet des vêtements, des parties du corps, des couleurs dans une de ses langues, et être plus fort dans d'autres domaines, d'autres champs sémantiques dans l'autre langue.
Agathe, quels sont les trucs qu'un parent peut développer pour rendre son enfant, pour favoriser l'apprentissage de plusieurs langues chez son enfant?
Je dirais que c'est autant que possible augmenter l'exposition à chacune des langues, augmenter les contextes où il y a des interactions sociales, privilégier aussi les interactions sociales aux écrans, par exemple, entre une activité sportive ou de loisir dans une langue ou regarder une émission de télévision dans la langue, ce sera plus efficace si on veut que l'enfant l'utilise, de favoriser des contextes où il va devoir échanger avec des personnes et non seulement des activités plutôt passives. Et puis, un autre truc aussi, c'est simplement de, par exemple, regarder dans les centres communautaires ou les centres de loisirs près de la maison. Par exemple, la bibliothèque, centre des loisirs, est-ce qu'il y a des activités offertes dans différentes langues auxquelles on pourrait inscrire notre enfant? Et parfois, même les activités sont très abordables ou gratuites. Par exemple, les heures du conte à la bibliothèque.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a certaines bibliothèques où on offre des lectures dans d'autres langues que le français ou même l'anglais. Donc, quand on veut augmenter l'exposition à une langue qui n'est pas fréquente, qui est minoritaire, par exemple, au Québec, on peut penser à l'arabe ou à l'espagnol, ben c'est intéressant d'aller chercher différents contextes en plus de la famille où l'enfant va pouvoir baigner dans cette langue-là.
Dernière question, Agathe. Est-ce que les familles unilingues devraient enseigner ou inciter leur enfant à apprendre une seconde langue?
Bien, c'est sûr qu'il y a énormément de bienfaits au bilinguisme, en fait, à tous les âges, mais aussi pour les enfants. Toutefois, je dirais que c'est inutile de se forcer à apprendre une langue ou de forcer notre enfant à apprendre une langue dans l'éventualité où cette langue lui est pas utile. Mm-hmm. Donc, pour que le bilinguisme soit gagnant, c'est important que l'enfant comprenne et voit l'utilité des langues qu'on veut lui enseigner.
Oui, qu'il ait du plaisir aussi à les apprendre.
Tout à fait, exactement.
Le bilinguisme, un atout dans son jeu, signé Agathe Pulak-Cabola, orthophoniste et directrice générale de la clinique multithérapie ProAction. C'est publié au CHU Sainte-Justine, Agathe, et peut-être qu'éventuellement, vous devrez en écrire un autre qui s'adresse davantage aux personnes âgées parce qu'il est prouvé aussi que le bilinguisme a des effets positifs et un effet protecteur là, sur les facultés cognitives des personnes âgées. C'est un défi que je vous lance, Agathe.
Ah oui, mais c'est un très beau défi. Merci, Marianne.
Merci, Agathe. À bientôt.
À bientôt.
On en entend parler, oui, de plus en plus. Elles sont mystérieuses, elles sont fascinantes et les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ces bactéries qui foisonnent notre intestin. Marianne Desautels, Marie-Salle, vous en êtes une de ces scientifiques qui oui. s'intéressent, et ce, depuis longtemps, aux bactéries, aux microbiomes. C'est le nom oui. un peu plate là, que l'on donne, et vous pourrez nous l'expliquer, à cette flore intestinale-là. Feu, flore oui. intestinale. Vous venez de signer 1000 milliards d'amis, comprendre et nourrir son microbiome chez Cardinal. Pourquoi, depuis 15 ans, à peu près, et ça, on l'apprend dans votre livre, là, il y a autant de publications et d'intérêts accordés aux bactéries?
Parce que même si on sait que depuis longtemps que nous sommes remplis de bactéries, qu'on en a beaucoup dans le ventre, on n'avait pas vraiment de moyens techniques de les étudier. Mmh. Et depuis une vingtaine d'années, les technologies de séquençage qui nous aident à vraiment être capables de recenser des espèces bactériennes dans un certain milieu. En fait, on va aller chercher par les gènes à savoir qui est là et qui fait quoi. Et ces technologies-là se sont vraiment démocratisées. Leur coût a vraiment baissé depuis une dizaine d'années. Et donc, là, les connaissances affluent. C'est une mine d'or de données pour les scientifiques. Alors, on va chercher ces informations-là et on s'est rendu compte que les bactéries avaient une importance incroyable au sein de notre santé. Elles ne sont pas que des petits passagers passifs. Elles jouent un rôle actif. Elles sont toujours en relation avec notre système immunitaire, notre corps,
cerveau aussi. Ça, je trouve oui. ça fascinant. On va y revenir. Ça, c'est certain. Je dis feu, flore intestinale, évidemment, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. C'est que maintenant, c'est ce nouveau terme, microbiote ou microbiome, oui. qui, bon, c'est juste mon opinion à moi, je trouve ça un petit peu plus plate comme terme, peut-être moins poétique. Ouais. Mais en même temps, et ça, c'est mentionné assez souvent et d'entrée de jeu dans le livre, tout ça est en mouvance, en constance recherche. Ça se peut oui. même qu'on change de terme éventuellement.
Ça évolue, ça oui. Puis on s'est creusé la tête. Moi, j'ai fait un stage à Découverte. J'ai participé au reportage de Mario Masson à propos du microbiome. Mais on s'était demandé qu'est-ce qu'on utilise, microbiote, microbiome. Les Français en France utilisent beaucoup microbiote. Microbiote, ça veut dire les bactéries, ça désigne les bactéries elles-mêmes, toutes seules. Microbiome, ça peut faire référence à deux choses, en gros. C'est soit l'ensemble des génomes, donc ça réfère à la métagénomique, donc c'est soit l'ensemble de ces gènes bactériens-là, ou bien ça peut être utilisé comme biome, dans un sens plus général. Alors, on parle de l'écosystème au complet, ça inclut les bactéries, les gènes, les conditions, l'endroit. Et j'ai choisi microbiome parce que ben, ça fait plus univers. Et c'est très difficile de parler du microbiote, de parler seulement des bactéries elles-mêmes, parce que dans le fond, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est très difficile de les dissocier de notre corps, de notre identité, tellement elles ouais. sont imbriquées et elles sont en relation avec nos cellules. Donc, j'en parle comme d'un ensemble, comme d'un système.
Elles font partie de notre identité et elles sont là dès notre naissance, quoi ouais. qu'on n'ait pas tous égaux. Si on est par non. césarienne, ça se passe pas aussi aisément que si on est par accouchement naturel.
Voilà, on hérite d'une bonne partie du microbiome vaginal de notre mère. Quand on naît, on passe par le vagin et donc il y a des bactéries qu'on ingurgite, on en est complètement recouvert et ces bactéries-là vont coloniser notre intestin. Quand un bébé naît par césarienne, les premières bactéries auxquelles il est exposé sont les bactéries de l'air, les bactéries de la peau du personnel hospitalier. C'est un milieu qui est quand même assez stérile là, au départ. Donc, il y a des scientifiques qui se sont demandé, bon, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça pourrait avoir un impact? On sait que les bébés nés par césarienne voient leur risque de souffrir d'obésité, d'asthme, d'allergie ouais. augmenter. Donc là, il y a peut-être un lien avec le système immunitaire. On est encore en train de chercher à quel point ce manque potentiel-là de bactéries à la naissance peut affecter la santé des enfants. Puis, il y a même des protocoles de prévention qui visent à inoculer, si vous voulez, à contaminer positivement oui. les bébés nés par césarienne avec les bactéries de leur mère. Pour les outiller avec les bonnes bactéries. Parce que dans la première année de notre vie, c'est surtout les trois premiers mois qui sont vraiment cruciaux dans le développement du système immunitaire, et la présence de certaines bactéries vont vraiment indiquer à nos cellules immunitaires qui est toléré, qui ne l'est pas, qui...
qui surveiller.
Oui, voilà, comme, quand réagir.
Donc. Et vous le dites dans le livre, Marianne, il vaut mieux être malade au départ de notre vie un petit peu. Là, ça ne peut pas nuire parfois. Là.
Ben, en fait, ça, c'est la théorie hygiénique qui a évolué grâce aux connaissances à propos du microbiome qu'on a acquis dans les dernières années, qui est devenue la théorie des vieux amis. Oui. Je vous explique, c'est que la théorie hygiénique disait justement qu'il valait mieux être malade. Et on s'était rendu compte que les enfants qui vivaient sur une ferme, qui étaient très exposés à des pathogènes potentiels.
Poils d'animaux.
Oui, avaient moins de risques de développer des allergies. Mais maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas tellement besoin d'être malade, mais il semble que d'être exposé à des bactéries avec lesquelles nous avons coévolué depuis que l'homme, que l'humain est humain, il semble que ce contact-là soit favorable à un meilleur développement du système immunitaire.
Oui. Donc, laissez vos enfants manger du sable. Non. Ça peut
peut-être
pas nuire.
Pas aller jusque-là, mais peut-être pas trop désinfecté en général.
Ce qui aussi nous distingue, c'est ce que l'on mange.
Ouais.
Et quelqu'un qui grandit au Japon, qui mange des algues, par exemple, n'aura peut-être pas nécessairement la même famille de bactéries que nous ici au Québec.
C'est un exemple intéressant. On sait que les Japonais possèdent une enzyme qui digère les algues, le nori qui entoure les sushis. Les Japonais consomment beaucoup d'algues. Et on s'est rendu compte que cette enzyme-là provient de bactéries. Donc, dans le microbiome intestinal des Japonais, ils ont acquis certaines bactéries qui sont spécialisées dans la digestion des algues. Donc, on peut retrouver un peu le même genre de spécialisation à travers le monde. C'est-à-dire qu'on voit des différences entre les Belges. Les Belges ont des bactéries qui sont capables de digérer le chocolat noir. En fait, ils ont plus de bactéries spécialisées pour digérer les polyphénols du chocolat noir. Alors, on voit vraiment des spécificités régionales, et on les constate dans le microbiome, selon l'alimentation.
Cet échange entre le cerveau, dans le livre, vous dites autant le microbiome communique avec le cerveau que le cerveau communique avec le microbiome. On pourrait se dire que beaucoup de maladies qui nous viennent du cerveau, on pense à l'Alzheimer, au Parkinson, pourraient être un peu en lien avec la santé de ce microbiome. Il reste une minute, Marianne.
Oh, en une minute. Bien, d'abord, on dit que le microbiome est le deuxième cerveau. C'est beaucoup parce qu'on a beaucoup, beaucoup de neurones dans l'intestin. Mais les bactéries peuvent aussi sécréter des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est bien connue. Oui. Elles peuvent influencer notre propre production de sérotonine. Donc, ça aussi, c'est un nouveau champ de recherche qu'on explore, les scientifiques creusent ce filon-là pour arriver à comprendre de quelle manière la conversation se déroule entre nos bactéries et notre cerveau.
Et la conversation, elle continuera aussi à se développer entre les scientifiques, je pense, de partout dans le monde. Et ce microbiome, il y a plein de recettes dans ce livre, 1000 milliards d'amis, comprendre et nourrir son microbiome. Marianne Desautels, Marissal, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Vous êtes toujours sur les ondes de Canal M. Tout à l'heure, on discutera avec Alexandrine Chapelle, gestionnaire de communauté à l'Association Parents Orphelins, et on parlera de deuil périnatal. Mais pour le moment, j'ai en face de moi France Cardinal Remette. Bonjour, France.
Bonjour.
Chroniqueuse ici qui nous parle d'un sujet que je trouve très outillant pour les gens qui nous écoutent. Personnes âgées, les proches de personnes âgées, mais en même temps, toute personne qui a affaire à ce fameux système de santé que l'on a ici. Comment on se prépare à un rendez-vous médical? On va aborder plein de questions aujourd'hui, France, par rapport à ce sujet. Mais j'ai l'impression que de bien se préparer à un rendez-vous médical, c'est de plus en plus important.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai fait ma recherche et puis je me suis rendu compte, le CHUM a émis des données qui m'ont vraiment renversée. On dit que plus de 50 % de la population est atteinte d'une maladie chronique en Amérique du Nord. Bon, ça, on s'en doutait, on en parle beaucoup. Alors, on parle du diabète, des maladies respiratoires chroniques, des affections cardiaques, le cancer et autres. Mais 80 % des utilisateurs d'Internet recherchent des informations reliées à la santé sur le web.
Oui.
Pourquoi? Pour se renseigner, pour se soigner soi-même ou pour valider un diagnostic, se préparer à poser des questions. Bon, on ne le disait pas, mais tout de même.
Se faire peur un petit peu.
Peut-être, mais on voit qu'il y a un intérêt quand même hein, par rapport à sa propre santé.
Oui.
Ensuite, bon, plus de 50 % des personnes qui consultent et qui ont un plan de traitement ne le respectent pas ou peu. Alors, les ordonnances médicales, entre autres, là, sont peu ou pas respectées. Pourquoi? Hein, la grande question, mais pourquoi? Alors, écoutez, trop souvent, là, parce que la personne se sent peu impliquée lors de la consultation médicale, malheureusement, les gens sont restés dans le modèle du médecin paternaliste.
Oui.
Nous, on a évolué dans le milieu de la santé. On est allé vers l'approche centrée sur le patient. Mais maintenant, on s'en va vers une nouvelle approche, le patient partenaire. Alors, le CHUM, entre autres, est un grand leader dans cette nouvelle approche où on implique la personne vraiment à prendre des décisions par rapport à ce qui va se passer pour sa santé, ses soins, ses traitements. Des fois, il y a des options de traitement. Alors, on l'invite à choisir. Évidemment, il y a d'autres milieux qui le font, là, pas seulement le CHUM, mais je parlais du CHUM parce qu'ils ont fait des documents. Je suis impliquée, moi, avec des patients partenaires. Et ils vont même plus loin, ils ont des patients ressources. Alors, les patients ressources les conseillent. Alors, c'est des gens qui sont passés à travers le système de santé et qui ont vu des écueils, des difficultés. Alors, ils les expriment et le CHUM travaille avec eux pour trouver des solutions. Alors, il y a quand même, c'est encourageant d'entendre ça.
J'entendais, France, dernièrement, une médecin de famille parler de tout ce que l'on ne dit pas à notre médecin de famille, mais les mensonges qu'on ne devrait pas émettre, finalement, et qui peuvent même être dangereux pour notre santé, à savoir les produits naturels aussi que l'on consomme, on doit les nommer. Ne pas mentir sur nos habitudes de vie. Si on fume, on doit le dire. Si on boit de l'alcool, de pouvoir chiffrer la consommation de drogue, la même chose. On a tendance aussi à mentir à notre professionnel de la santé.
Oui, oui, c'est sûrement. On observe ça à tous les jours. Par contre, comme tu le mentionnes, c'est pas la bonne route à prendre.
Mais non,
non, oui. Non, vraiment pas. Il faut justement prendre sa place. Et puis, les milieux sont beaucoup plus ouverts qu'on le croit. Le médecin, il voit beaucoup de personnes. On parle de consommation d'alcool, mais il y a plusieurs qui prennent un petit verre de vin avec leur repas le soir. Là, c'est plus un sujet tabou comme ça l'était peut-être il y a 30 ou 40 ans. Là.
Et comme vous le disiez, de voir notre médecin d'une façon paternaliste, on n'en est plus là. Les relations ont évolué et on peut penser que notre médecin a l'ouverture d'entendre ce qu'on a à lui dire sur nos habitudes de vie. Et quelque chose de très intéressant aussi que vous avez mentionné, c'est qu'on a le droit de faire partie prenante de ces soins de santé et de prendre notre santé en main.
Oui, c'est même dans la loi sur la santé et les services sociaux. Alors oui, mais évidemment, les milieux sont très ouverts parce que ils vont gagner. Si le client est vraiment engagé dans ses soins, bien, tout le monde gagne. Hein? C'est des solutions gagnantes. Maintenant, tu m'amènes sur un terrain, là, quand on parle des habitudes de vie.
Oui.
Évidemment, c'est une autre observation qui est faite, c'est que les gens... Même s'ils ont un diabète, un problème au niveau cardiaque, ils veulent revenir à leurs habitudes puis à leur vie d'avant.
Ouais.
Alors, dans la façon de s'alimenter, de fonctionner, les activités physiques, il y en a qui en font très peu puis ils n'ont pas vraiment le goût de s'engager à ce niveau-là. L'usage de tabac, on en parlait. Mais c'est important d'ouvrir là-dessus parce qu'il y a des compromis qui peuvent être faits. On peut négocier ses soins avec le médecin et l'équipe de soins. Ça aussi, c'est un avantage.
Ah oui.
Maintenant... L'autre élément qui est très important, c'est que, entre autres, quand on apprend un diagnostic qui nous bouscule intérieurement, il faut absolument prendre un temps d'arrêt pour se demander ce que l'on veut accomplir, là, puis où on en est dans notre parcours de vie, puis qu'est-ce que ça nous fait intérieurement d'avoir appris cette nouvelle-là. C'est important d'avoir ce temps d'arrêt-là, ne serait-ce que d'aller prendre une promenade à l'extérieur et de réfléchir aux émotions, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des émotions, il peut y avoir du déni, de la colère. On peut se sentir déprimé, notre estime de soi peut être atteinte. Il y a plein de choses qui surviennent et c'est normal, c'est très normal.
Mmh. Vous parlez aussi, France, du plan d'intervention. Qu'est-ce que c'est ça?
Bon, le plan d'intervention, c'est un document, c'est notre dossier. Hein, ça s'est inclus dans le dossier, mais c'est un document officiel dans lequel vont être notées les problématiques qu'on a, les options de traitement, le traitement qui est suggéré et qui est accepté par le patient. Évidemment, tous les résultats d'analyse sont inclus aussi dans le plan d'intervention. Mais le plan, c'est surtout des objectifs à atteindre. Alors, les objectifs à atteindre, bien, il faut qu'ils soient en lien avec le projet de vie de la personne. C'est dans ces termes-là qu'on le verbalise aujourd'hui. Alors, si la personne a l'habitude, par exemple, de voyager beaucoup puis elle ne veut pas renoncer à ses voyages, bien, il y aura peut-être des compromis par rapport au rendez-vous qu'elle aura à prendre par la suite. C'est un exemple.
C'est là qu'on peut négocier. Si notre médecin nous dit, par exemple, vous devriez arrêter de fumer, si on lui dit, ben je suis pas prêt, est-ce que je peux réduire? Est-ce qu'on peut s'entendre sur, bon, X nombre de cigarettes ou consommation d'alcool ou pour la nourriture, même chose? C'est le moment d'exprimer nos limites à notre médecin.
Oui, puis peut-être qu'il va arriver avec des solutions auxquelles on n'a pas pensé.
C'est vrai.
Des solutions qui sont inconnues de nous, mais qui sont bien connues dans le milieu et qui peuvent fonctionner et qui peuvent nous satisfaire.
Oui.
Alors, c'est très important, effectivement.
Il faut rappeler qu'on a ses compétences et ses habiletés de comprendre et de s'investir dans ce plan d'intervention.
Tout à fait. Et c'est nous qui sommes les détenteurs des expériences qu'on a vécues, de notre vécu antérieur par rapport à notre culture, nos habitudes familiales. Il y a plein d'éléments là, qui se sont imprégnés dans notre parcours de vie et qui vont ressortir au moment où on apprend qu'on a un problème de santé. Alors, il faut en tenir compte. Aussi, pour la visite médicale, c'est important de se faire accompagner, de faire une liste, de se préparer, avoir une liste de questions qu'on veut poser. On l'a mentionné tantôt, être un partenaire actif dans ses soins, puis aussi identifier son réseau. Si on a un problème de santé chronique et qu'on a besoin de l'aide de d'autres personnes, bien, d'identifier c'est qui mes proches, c'est qui peut m'aider, puis comment ces personnes-là peuvent m'aider. Très important, on s'en va vers cet angle-là dans le futur, parce qu'on le sait, hein, la population est vieillissante et les problèmes de santé chronique vont se multiplier parce qu'on vit plus longtemps. Alors, on ne parle pas d'un problème de santé chronique, on parle de plusieurs, souvent, problèmes de santé chronique.
Oui.
Alors, c'est important d'avoir un réseau autour de nous pour nous supporter. Nous aussi, on va supporter d'autres personnes, mais il y a des personnes qui peuvent nous supporter. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Et de penser que le réseau de santé est un réseau aussi, c'est-à-dire que le médecin travaille souvent avec une équipe multidisciplinaire. Ces gens-là sont aussi là pour nous aider et on pense souvent que le médecin ou... son équipe n'a pas le temps pour nous, c'est aussi de changer cette idée-là.
Tout à fait. Il faut s'affirmer, se préparer, faire connaître nos attentes, nos besoins. C'est important de prendre sa place, de se responsabiliser par rapport à ça. Puis un élément que j'ai oublié de mentionner plus tôt, mais qui est vraiment l'élément numéro un, il faut établir une relation de confiance avec son médecin, avec l'équipe de soins. Mais c'est le premier souvent qu'on va voir, hein, le médecin. Et si on n'a pas confiance, on sent que la communication ne passe pas, qu'on n'a pas le goût de suivre le traitement qu'il nous suggère parce que ça ne nous convient pas, peut-être qu'il faut penser à changer de médecin. Ça peut être une option aussi. Dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas.
Et qu'on a le droit de poser des questions sur le traitement qui nous est suggéré, bien sûr, ça fait partie beaucoup de l'actualité dernièrement avec ce qui s'est passé. On pense à José Blanchette, à Tout le monde en parle, sur ce qui est de la chimiothérapie, radiothérapie en cas de cancer. On peut poser des questions, tenter de comprendre. On a un libre choix aussi par rapport à
ça. Moi, ce que j'ai compris de ce discours-là, c'est que dans le fond, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. On ne veut pas des traitements pour rien.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je veux tout essayer. Même s'il y a 2 % de chances que ça fonctionne, je veux l'essayer. Ces gens-là ont le droit de l'essayer.
Mm-hmm.
Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, j'en ai assez. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, j'ai eu 3 traitements de chimiothérapie, j'ai un cancer du sein, et si on m'en offre un quatrième, je vais dire non. Puis c'est correct aussi. Alors, il faut se respecter. Il faut savoir quelles sont nos valeurs. Le genre de questions qu'on peut poser, j'en avais écrit quelques-unes. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les partage.
Oui, on a encore un petit peu de temps, France.
Bon. Alors, on peut dire, j'ai besoin de plus d'explications car ce n'est pas clair. Hein? On peut demander ça. Dois-je subir d'autres tests? Quand? Quelles sont mes options de traitement? Lesquelles recommandez-vous et pourquoi? Quels sont les taux de succès du traitement choisi pour le même type de maladie pour mon groupe d'âge? Habituellement, là, qu'est-ce que ça donne, ces traitements-là?
Mon groupe d'âge et mon genre, mon sexe.
Aussi.
Si je suis une femme, si je suis un homme.
On
peut vraiment aller dans une précision de question. Je pense qu'on a même intérêt à le faire.
Tout à fait. On peut parler des effets secondaires. Quels seront les effets secondaires habituels là, pour ce traitement-là? quels symptômes peuvent survenir? Est-ce qu'on va m'aider avec ces symptômes-là? Est-ce qu'il y a des complications? Qui va assurer le suivi de ma situation en cas d'urgence ou en cas de besoin? Est-ce qu'il y a une personne contact qui peut m'aider à cheminer à travers tout ça?
Mm-hmm.
Alors, évidemment, au niveau des professionnels de la santé. Dans certains milieux, il y a des infirmières pivots et ces infirmières-là donnent même leur carte d'affaires aux patients qui viennent consulter et on dit en cas de besoin, appelez-moi. Alors, il y a des options.
Et on n'hésite pas à parler de nos symptômes. Je reviens avec cette médecin de famille qui parlait des mensonges souvent émis dans son cabinet. C'est sur le niveau de douleur. On doit dire, on a mal de façon précise, c'est quoi nos symptômes, nos effets secondaires.
Tout
aussi.
À fait, tout à fait. Et même, je peux dire, vis-à-vis de la maladie grave, entre autres, des gens qui souffrent d'un cancer, quand ils commencent à avoir des symptômes et de la douleur, comme tu le mentionnes, c'est très important d'en parler parce qu'on peut introduire des mesures thérapeutiques pour soulager les personnes précocement. Alors, même dans certains cas, on peut parler de soins palliatifs quand on parle de maladies assez sévères, mais on peut les introduire pas seulement à la fin de la vie, là, les soins palliatifs. Maintenant, on dit qu'on doit les introduire le plus rapidement possible. Ça peut être un an avant qu'on pense que l'état va vraiment se détériorer. On le fait pour la qualité de vie de la personne, pour la rendre plus confortable et justement éliminer tous les symptômes et la douleur.
France Cardinal Remette, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. Ça a été tellement éclairant. On rappelle, vous avez été infirmière pendant de nombreuses années. Vous continuez à enseigner à de futures infirmières. Donc, vous étiez vraiment très bien placée pour nous parler de ce sujet-là. Ça a été grandement apprécié. Merci.
Merci beaucoup.
Alexandrine Chappet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gestionnaire de communauté à l'Association Parents Orphelins et là pour nous parler de cette journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal qui aura lieu le 15 octobre. C'est samedi, hein?
Exactement, samedi.
Le deuil périnatal, c'est assez méconnu, c'est assez incompris encore, je dirais même tabou. Et pourtant, ce que l'on apprend sur votre site, Alexandrine, c'est que 23 000 familles ici au Québec vivent chaque année le décès d'un bébé. Donc, c'est assez fréquent.
Oui, on parle d'une grossesse sur quatre. Donc, c'est 23 000 familles, ça regroupe autant les fausses couches avant la 20e semaine de grossesse que les décès à la naissance ou dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
Oui, parce que c'est bien que vous l'expliquiez, parce que pour qu'il y ait un deuil périnatal, il doit y avoir un décès périnatal.
Exactement.
Oui. Les réactions, si on est un proche d'un parent, que ce soit un papa, une maman, peut-être même les grands-parents, il ne faut pas les oublier dans ce deuil-là, on peut s'attendre, à quel genre de réaction?
Bien, c'est un sentiment de deuil. Donc, il y a beaucoup de sentiments qu'on, habituellement, on réprouve en société. La colère, la tristesse, beaucoup de peine, le besoin aussi de cultiver la mémoire de l'être qu'on a perdu. Mm-hmm. Dans le cas de la perte d'un bébé, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on a souvent peu de souvenirs auxquels se raccrocher. Et c'est ça qui rend le deuil périnatal un petit peu plus difficile. Dans une société comme la nôtre, les enfants sont des enfants qui sont en général désirés. Donc, on attend dès l'annonce de la grossesse, la venue de cet enfant, il fait déjà partie de la famille. Donc, c'est tout un pan de notre vie et de notre famille qui s'effondre quand l'enfant n'est plus.
Est-ce que ça s'exprime différemment chez l'homme que chez la femme?
Globalement, oui. On pourrait faire une belle métaphore entre Mars et Vénus. En général, les mamans sont plus souvent portées à en parler beaucoup, à vivre le deuil de façon très émotionnelle. En général, les papas intériorisent peut-être un petit peu plus. Ils se concentrent sur des activités physiques, du bricolage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas le deuil l'un et l'autre. C'est deux façons peut-être un petit peu différentes de l'exprimer, par contre.
Chez Parents orphelins, est-ce que vous accueillez le parent d'une façon différente si le bébé est mort, c'est-à-dire en étant un fœtus, c'est-à-dire une fausse couche, s'il est mort à la naissance, s'il est décédé en cours de vie, est-ce que le cheminement ou l'approche est différente?
Je vous dirais oui et non. La douleur, c'est pas quelque chose qui se compare. On peut pas regarder quelqu'un et lui dire toi, t'as plus le droit d'avoir de la peine que quelqu'un d'autre. En fait, nous, on considère chez Parents orphelins que le deuil périnatal, c'est une histoire d'émotion, c'est pas une histoire de grammes ou de semaines. Peu importe la durée de la grossesse ou l'âge qu'avait l'enfant, on peut ressentir autant de peine en ayant à peine démarré sa grossesse qu'en ayant perdu un enfant qui avait déjà 3 jours de vie.
Ouais.
Par contre, il est vrai qu'à titre d'animatrice de Café Causerie, il y a peut-être des petites différences entre un bébé qui a vécu, on a quelques souvenirs, on se souvient à quoi il ressemblait, versus une grossesse qui démarrait à peine où on avait très peu de souvenirs. Je dirais même que parfois, dans le cas d'une grossesse qui est interrompue en cours de grossesse, il y a aussi ce sentiment de s'être fait voler une partie de cette grossesse qui vient peut-être un peu se rajouter par rapport au deuil de l'enfant. Donc, il y a le deuil de la grossesse imparfaite, le deuil de la grossesse non terminée également qui vient se rajouter.
Oui, ce sont des cas uniques.
Oui, exactement.
Oui. Maintenant, on peut... À quel moment on s'inquiète? Là, je m'adresse peut-être aux proches qui nous écoutent, l'environnement, le frère, la sœur, les tantes, de dire, OK, là, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement.
Je vous dirais que dans le cas du deuil d'un enfant, c'était un deuil qui est quand même relativement long. Il faut, je pense, avant tout écouter le parent, le respecter dans son propre cheminement. On est dans une société, malheureusement, où on voudrait que les choses aillent vite, que ça se règle en quelques coups de peau de cuillère, pardonnez-moi l'expression.
Oui, oui, oui.
Mais dans le cas d'un deuil, en fait, il faut que la personne réapprenne à vivre avec ce qu'elle n'a plus, avec la perte qu'elle a subie et qu'elle réapprenne à vivre avec cette nouvelle réalité. Donc, ça peut être plus ou moins long. Je vous dirais qu'à quel moment on s'inquiète quand on a une connaissance ou un proche qui vit un deuil périnatal. Moi, je ne mettrais pas nécessairement une question de durée parce que chaque processus est individuel. Parfois, on peut avoir l'impression que la personne est en recul alors qu'elle chemine, qu'elle a accompli une étape. Et nous, on a tendance à parler de vagues plutôt qu'un processus qui est linéaire. Donc, un jour, ça va bien. Un jour, ça va un peu moins bien. Puis, à un moment donné, les vagues s'estompent ou sont moins fréquentes. Leur force est aussi moins fréquente. Mais je vous dirais peut-être qu'après... peut-être quelques années, si la personne a toujours du mal à être fonctionnelle, parce que le processus de deuil, c'est réapprendre à être fonctionnel avec ce qui nous manque, peut-être qu'effectivement, on peut orienter la personne vers des services supplémentaires.
Ouais. Vivre un deuil périnatal pour des parents, pour une famille, c'est aussi être confronté à un choix. Est-ce que j'ai un autre enfant ou pas? Bien sûr, encore là, c'est des cas uniques, parce qu'on peut déjà avoir des enfants au sein de notre famille. C'est une question qui revient souvent chez vous, Alexandrine?
Je vous dirais que, en fait, c'est une question qui arrive même quand on reçoit des parents qui viennent tout juste de perdre leur bébé. Est-ce que je vais être capable d'avoir une autre grossesse? Est-ce que je vais être capable de vivre cette grossesse sereinement? La question de l'espoir, elle est fondamentale dans tous les cafés qu'on anime. Alors, c'est une question qui se pose beaucoup. Il n'y a pas de réponse à ça, là. C'est vraiment un cheminement individuel. Comment est-ce que la vie, pour toi, en tant que personne, vaut le coup d'être tentée, malgré le fait
la
que
peine,
tu sais ce que
la peine, ouais.
La perte, tu sais ce que ça peut engendrer. Est-ce que pour toi, ça vaut la peine d'essayer encore?
Oui. Il y a des impacts sur la fratrie, sur les autres enfants issus de cette famille?
Oui. Puis je vous dirais qu'ils soient nés avant ou après. C'est sûr que les enfants qui sont nés avant, en général, ils ont eu conscience de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur et ça les marque beaucoup. Ma fille avait 6 ans quand nous, on a perdu nos 2 enfants. Elle s'en rappelle encore et elle regrette beaucoup de ne pas avoir eu la chance de les connaître. Pour mon petit garçon qui est né après, pour lui aussi, c'est important de savoir qui est arrivé avant lui puis comment ils étaient et à quoi ils ressemblaient.
Oui, ça fait partie de l'histoire d'une famille
exactement.
Aussi. Maintenant, est-ce que vous Et je reviens toujours à ces cas uniques, bien sûr. Chaque individu est différent. Est-ce que vous encouragez ces parents à garder des souvenirs de ces enfants? On entend souvent, bon, je pense que c'est le cas du côté du CHU à Québec, ce service de photographie lors d'un événement malheureux, bien sûr, même tragique, d'un enfant qui mort-né, finalement. Est-ce que ça peut être un outil pour nous accompagner dans le deuil?
Dans tout deuil, je pense que de pouvoir cultiver la mémoire avec des souvenirs tangibles, c'est quelque chose qui est très racinérant. Dans le cas de la perte d'un bébé, ça l'est encore plus parce qu'on a très peu de liens physiques avec cet enfant-là, autre que les quelques objets qu'il aura pu toucher s'il a eu la chance d'en toucher. Donc oui, c'est très important. Puis ça peut être des souvenirs qui sont aussi fantasmagorique que la belle journée qu'on avait passée alors qu'on était enceinte, ouais. la promenade qu'on avait fait en couple, que le petit pyjama qu'il a pu porter éventuellement, oui.
Ouais. Maintenant, je veux parler de cette journée du 15 octobre qui réunira, bien sûr, des parents endeuillés, leurs proches, une journée qu'on appelle de marche lumineuse.
Oui.
Ça se passe, ça se déroule où, Alexandrine?
Alors, ça se déroule au parc Nicolas Viel à Hunsic. Nous donnons rendez-vous à nos parents orphelins entre 17h et 17h30 pour le rassemblement. Et puis, vers 18h, on va faire le tour du parc et un petit peu du quartier avec nos lampions pour marquer le passage de ces enfants-là et honorer leur mémoire. C'est un événement qui se veut, en fait, rassembleur, d'une grande douceur, qui permet aussi aux parents orphelins de rencontrer d'autres parents orphelins parce que l'expérience des pères est fondamentale aussi dans le cheminement du deuil.
Oui, de pouvoir échanger. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans le cadre de vos cafés.
Exactement, c'est de mettre en contact des parents. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez drôle, entre guillemets, de voir que même si les histoires sont très différentes, les parents vont chercher à tisser des liens, des points communs pour pouvoir se trouver des points de repère et des choses qui les rapprochent les uns des autres.
Est-ce qu'il y en a des points communs?
Toujours.
Oui.
Toujours. Ils trouvent toujours des points communs. C'est ça qui est fondamental. C'est là qu'on voit la résilience de l'être humain, dans le fond.
Et c'est ça qui est rédempteur, finalement.
Oui.
Ça crée le bon, le réseau encore. Hein?
Oui.
On revient à ce réseau-là qui devient un filet de protection. Parentsorphelins.org, c'est votre site web. Alexandrine, est-ce qu'il y a des infos sur les cafés?
Oui, on y trouve notre calendrier de cafés puisque nous avons maintenant des cafés à La Pocatière, à Drummondville, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ah oui.
Et deux lieux à Montréal également.
Et il y a, je sais, au sein de votre conseil administratif, vous me corrigez si je me trompe, une psychologue aussi qui est là.
Exactement, exactement.
Alors, ça
c'est
aussi
une de nos administratrices.
Oui, c'est un bel atout, évidemment.
Exactement, oui.
Alexandrine Chappet, vous êtes gestionnaire de communauté à parents orphelins, cette association qui s'intéresse, qui outille, qui accompagne des parents qui vivent un deuil périnatal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Dernière partie de cette émission, c'est la partie coup de cœur où je vous parle, où je vous mets en lumière des sujets qui pourraient vous intéresser également, vous faire du bien à vous, vos proches, votre famille. Et octobre, c'est le mois de l'accessibilité universelle et ce, dans 35 bibliothèques ici à Montréal, 78 activités qui sont autant des ateliers, des témoignages, des conférences. Et pour toutes les familles, pour tous, justement, accessibilité pour tous. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. J'ai retenu quelques activités, entre autres, contes et zoothérapie, avec une zoothérapeute, Nathalie Racine, son petit chat qui s'appelle Moustique, ou son chien encore, qui vous feront découvrir des animaux, des merveilleux animaux, à l'aide d'histoires et de documentaires. C'est dans différentes bibliothèques sur l'île de Montréal. On parle de la bibliothèque Maisonneuve, Saint-Michel et également du vieux Saint-Laurent. Tout ça, ben, on pourra glisser un lien, je pense que ça serait intéressant, tout ça, au cours du mois d'octobre. Aussi, entendez-vous bien tout sur la santé auditive. C'est Michèle Nadeau qui est présidente de l'Association des personnes sourdes et malentendantes du Québec qui présente les différents types de surdité, le taux de prévalence, les symptômes et les différents services offerts aux malentendants. Encore une fois, pendant tout le mois d'octobre, il y a plusieurs dates et ce, dans plusieurs bibliothèques ici, toujours à Montréal. Et une dernière activité, toujours dans ce cadre du mois d'octobre, mois de l'accessibilité, c'est du côté cette fois de la bibliothèque de Saint-Michel et il n'y a qu'une date, donc vous ne devez pas la manquer, c'est samedi 15 octobre à 14h et ça s'appelle La vue chez les animaux en compagnie encore d'une zoothérapeute et de certains sympathiques mammifères. Là, ça c'est un petit peu intriguant parce qu'on se demande quels mammifères peuvent être présents. Les participants découvriront les principales différences entre la vision humaine et celle des animaux. C'est une activité pour les 6 à 12 ans et vous pouvez réserver au 514-872-4250. Je vous rappelle, c'est du côté de la bibliothèque de Saint-Michel, samedi 15 octobre à 14h. Des activités pour tous. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à cette équipe parce que cette émission ne se fait pas seule. Non, non, non. C'est Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. On est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook. Vous pouvez également nous appeler et entrer en contact avec nous via notre site web. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous souhaite de sortir un petit peu en famille. Mois d'octobre, mois de l'accessibilité dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Souvent des activités qui sont soit peu chères ou gratuites. Ça vaut la peine de sortir. Quoique c'est magnifique dehors, on sait, vous pouvez toujours aller prendre une marche et prendre l'air. Portez-vous bien. On se retrouve dans une semaine. Bye bye.